Donc le sujet du jour qu'on a proposé avec James, c'est science et foi, Bible et raison, autour de ces choses-là. Alors, bon, tu as une introduction ou on attaque par la Bible ou,
on attaque par la Bible.
On attaque par la Bible.
Brut.
Alors c'est vrai qu'a priori, dans la Bible, on ne trouve pas le mot science, mais on en trouve quand même. C'est-à-dire un peu quelque chose qui peut être une démarche scientifique. C'est-à-dire, j'allais dire, d'observation de la nature pour en tirer une connaissance du réel. Voilà. Alors, je commence par exemple par le psaume 19, avec cette belle méditation de David. « Le ciel raconte la gloire de Dieu, la voûte céleste dit l'œuvre de ses mains. Le jour l'annonce au jour, la nuit l'explique à la nuit. » Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles, on n'entend pas leur voix. Leurs mesures apparaissent sur toute la terre, leurs accents vont aux extrémités du monde. C'est là qu'il a placé une tente pour le soleil. Celui-ci, tel un marié, sortant de sa chambre tout content, se met en route tel un vaillant guerrier. Il s'élance des extrémités du ciel et achève sa course à l'autre extrémité. Rien n'est à l'abri de sa chaleur. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure la vie. Le témoignage de l'Éternel est sûr. Il rend sage le naïf. Alors, vous l'avez sur ce petite liste que je vous ai mis, cette petite compilation. Alors finalement, ce que propose finalement ce psaume, c'est de remarquer qu'à travers la création, on peut savoir quelque chose du Créateur. Et donc le ciel raconte la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, ce n'est pas simplement le fait qu'il aurait un nom à particules ou qu'il aurait une légion d'honneur, mais c'est plutôt la dynamique d'évolution de Dieu. On le voit, la gloire de l'Éternel, c'est ce qui, par exemple, met en route les Hébreux dans le désert, les libère d'Égypte, et puis par la parole, les nourrissant avec la manne, avec des cailles, eh bien, leur permet, et de l'eau qui sort miraculeusement d'un rocher, qui les suit en marchant sur ses pattes, enfin non, on ne parle pas des pattes, on dit que le rocher les suit, enfin bref, à travers ça, c'est la gloire de l'Éternel. Donc, les cieux racontent la dynamique d'évolution, la dynamique, d'évolution, de changement qu'est Dieu. Et alors, bon, c'est pas avec un langage, c'est pas avec des paroles, mais c'est quelque chose qui se manifeste. Alors, en particulier, il y a cette admiration pour le soleil qui est quand même plutôt une figure négative dans la Bible, parce que contrairement à nos pays tempérés, ben là-bas, il fait quand même assez chaud et le soleil tue, donc c'est une figure un petit peu ambivalente, mais bon, il y a le soleil. Alors, vous voyez, il y a cette observation du soleil, hein. Et bien sûr, à nos yeux d'aujourd'hui, on sait bien que c'est quand même ça montre un peu les limites de la science de l'époque. Le soleil, bon, tel un marié sortant de sa chambre tout content, bon, c'est, vous voyez, on voit quand même un peu des images un peu osées, quoi, évidemment, hein. C'est un peu du discours à la mère de Champignac, si vous avez cette référence, vous voyez, avec des sortes d'empilements de comparaisons un peu invraisemblables parfois, mais enfin bon. Le soleil, il s'élance, hein, c'est un peu une personnification du soleil qui s'élance, qui bouge, qui tourne, qui va se coucher à sa niche, dans sa niche. C'est vrai que ça montre aussi les limites de la science de l'époque, mais quand même, il y a cette théologie naturelle qui peut être entendue en observant la nature. Hein. Donc le ciel, la nuit, la terre, les extrémités du monde, le soleil, tout ça. Alors, quand même, donc dans le verset d'après, la loi de l'Éternel est parfaite. Là, par contre, elle est parfaite. Elle restaure la vie, le témoignage de l'Éternel est sûr. Il rend sage le naïf. Donc là, il y a quand même un niveau, quand même une distinction qui est faite entre peut-être une connaissance à partir de la science, qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui n'est pas vraiment articulée, qui n'est pas intelligible, qui est de l'ordre de l'expérience, qui doit finalement être mis peut-être en mots, et par rapport au témoignage de l'Éternel, ça quand même moins sûr. Surtout qu'il rend sage le naïf, il y a l'impression, voilà, que le témoignage de l'Éternel, il n'apprend pas simplement quelque chose au naïf, mais il le rend capable de sagesse, capable de discernement, ce qui explique bien la gloire de Dieu, c'est-à-dire il est créateur. C'est pas simplement apprendre quelque chose, c'est peut-être donner des oreilles pour entendre, comme dirait Jésus, puis un cerveau entre les deux oreilles. Alors, c'est vrai que c'est un peu la difficulté, c'est que on peut utiliser la Bible, par exemple, pour savoir quelque chose sur Dieu. Mais évidemment, la science des gens de l'époque, ben, elle valait ce qu'elle valait. Ils s'imaginent qu'il y a une voûte céleste, alors ils s'imaginaient que le ciel, c'est comme une, vous savez, les anciennes passoires à nouilles, vous savez, en métal, comme ça, avec des trous. Et donc, on voit à travers les trous, on peut voir la lumière qui est derrière, et puis, ben, des fois, il y a de l'eau, et donc ça pleut à travers les trous, si vous voulez. Et puis, ils s'imaginaient, bon, que la Terre était plate sur des colonnes, qu'il y a les extrémités de la Terre, avec peut-être des îles au bout. Et puis voilà, enfin bref, ici... Si on va chercher à fond dans la Bible bon, ce qu'il révèle, bah, évidemment, on va trouver, au sens de l'intelligence du monde sensible, on va trouver bah, la science de l'époque. Ça peut aussi faire réfléchir sur la théologie de l'époque, sauf que là, il y a l'affirmation quand même que le témoignage de l'Éternel est sûr. Alors cela dit, quand on parcourt la Bible, on voit bien non plus que là, il n'y a pas, je vais dire, une seule théologie, une seule... Bonsoir, monsieur. Une seule théologie, une seule révélation. La révélation, elle est quand même plurielle. Et donc, ça aussi, si vous voulez, ça invite quand même à une multiplicité des témoignages et puis peut-être aussi à mettre en tension différents passages. Alors, dans l'épître de Paul aux Romains, bonsoir. Dans l'épître de Paul aux Romains, il y a à peu près la même chose, finalement, dans une argumentation, peut-être aussi, avec... des personnes qu'il n'a jamais rencontrées et dont il cherche peut-être à faire progresser leur théologie, à les rejoindre dans leur intelligence du réel. L'apôtre Paul, donc, c'est quand même bien après, hein, je ne sais pas, par exemple, 1000 ans après, je ne sais pas. Ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, bon, pour tous, quoi, finalement. Hein. C'est Dieu qui le leur a rendu manifeste. En effet, ce qui chez lui est invisible... sa puissance éternelle, sa divinité, se voit fort bien depuis la création du monde, quand l'intelligence le discerne par ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque tout en ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu, ils ne lui ont pas rendu grâce, mais ils se sont égarés dans des raisonnements futiles, et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Se prétendant sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire de Dieu impérissable en des images représentant l'être humain périssable, des oiseaux, des quadrupèdes, et je ne sais pas quoi. Donc là, il y a une théologie naturelle, quoi. Il y a une théologie naturelle qui est possible et qui invite, là aussi, même celui qui n'a jamais entendu parler de Dieu ou du Christ, ou, voilà, ou qui n'a jamais eu l'expérience de Dieu à travers l'intelligence sensible, devrait pouvoir saisir quelque chose et rendre grâce au Créateur, finalement, de la création. Là encore, sa puissance éternelle, sa divinité, elle est vue dans une dynamique qui est présente dans le monde ou dans la beauté du monde, ou peut-être dans le mouvement des astres, ou je ne sais pas quoi, moi, du soleil, qui est mis en route pour voyager depuis son petit déjeuner jusqu'à sa chambre à coucher, peut-être, hein. Alors là aussi, on voit une opposition finalement. Se prétendant sages, ils sont devenus fous, et ça, on le retrouve souvent chez l'apôtre Paul. L'idée d'une sagesse qui est justement humilité devant Dieu plutôt qu'une sagesse arrogante qui s'écarte et puis qui préfère finalement du visible sensible à cette dynamique invisible qu'est Dieu. Alors ça, c'est la première source de connaissance possible, mais finalement, comme dans le psaume, l'apôtre Paul n'est pas simplement l'apôtre de la théologie naturelle, et donc c'est de la science, de connaître par la science. Mais il y a aussi la mystique, et il en est un peu un champion dans un sens, et on le voit par exemple dans 2 Corinthiens 12, J'en viens aux visions et aux révélations du Seigneur. Je connais un homme dans le Christ, voici 14 ans. Était-ce dans son corps? Je ne sais pas. Était-ce hors de son corps? Je ne sais pas. Dieu le sait. Un tel homme fut enlevé jusqu'au troisième ciel. Et je sais qu'un tel homme, était-ce dans son corps ou sans son corps? Je ne sais pas. Dieu le sait. Fut enlevé au paradis et qu'il entendit là des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'énoncer. Donc cet homme dont il parle, c'est lui bien sûr, hein, qui est dans une sorte de rencontre, expérience mystique avec le Christ et qui lui apprend là aussi quelque chose finalement, mais quelque chose qui n'arrive pas à traduire vraiment en mots. Et c'est peut-être la difficulté aussi, si vous voulez, de l'expérience de la foi. Alors là, on voit que c'est le troisième ciel, donc c'est quelque chose qui est de l'ordre de la métaphysique finalement, et dont il est difficile de parler avec un langage sensible, parce que ça, il n'y a pas de mots pour ça. Et finalement, c'est peut-être ça la difficulté, c'est que bon, pour le domaine du monde, on a des mots. Il y a du chaud, du froid, du sec, du mouillé, de la lumière et de la nuit. Bon, pour ce qu'est Dieu, c'est difficile. C'est comme pour quelqu'un qui a goûté des fraises, raconter à un Esquimau qui n'aurait jamais goûté de fraises quel goût ça a. Ou raconter à un sourd ce que ça peut être que d'écouter la cinquième symphonie de Beethoven. C'est quel effet ça peut faire, hein, si vous voulez. On est obligé d'utiliser des langages, on dit voilà, c'est brillant, c'est éclatant, c'est je ne sais pas ce qu'on peut dire hein, sur le... Donc on est obligé d'utiliser un langage sensible pour parler de cette expérience qui est au-delà du sensible. Alors finalement, il y a ces deux sources quand même de révélation qu'on retrouve. Il y a finalement la science et il y a la prière, la mystique, la foi, qui sont deux sources de révélation. Mais l'une comme l'autre est difficile, on le voit. La science, quand même, bien sûr, toujours un peu limitée, voilà, pas très sûre, pas très parfaite, hein, et puis comme ce monde, et puis l'expérience mystique, qui, elle, est sûre, est parfaite, mais dont on ne peut pas dire grand-chose, hein, dans le langage humain. Et finalement, je pense que voilà, le dialogue entre la science et la foi, tout est un petit peu entre les deux, si vous voulez. Tout est un peu entre les deux. Et peut-être que la difficulté, c'est que, on va le voir un peu après, mais du coup, pour parler de l'ineffable, de l'expérience sensible, on utilise le langage des sens. On dit par exemple, Jésus est la lumière du monde. Mais alors, évidemment... on peut comprendre ce que ça veut dire, mais c'est complètement métaphorique. Alors du coup, quand on nous dit que la lumière, c'est finalement une onde électromagnétique, bah, ça montre un peu, vous voyez, l'image vient un peu à ses limites, quoi, oui, bien sûr, hein, parce que du coup, Jésus n'est pas un champ électromagnétique. Ou bien, par exemple, dans la Genèse, bon, on nous dit que les animaux sont créés l'un après l'autre selon leur espèce. Alors, puis que l'homme est créé après. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est de la science ou est-ce que c'est de la mystique qui utilise le langage sensible pour parler de la valeur, finalement, des choses et du réel? C'est plutôt le deuxième cas. Ou si c'était le premier cas, si c'était pour eux de la science, c'est-à-dire une intelligence du réel, en disant, ben voilà comment ça a dû arriver à ce moment-là, ben c'est à peu près... la même fiabilité que leur voûte céleste en forme de passoire à nouilles, si vous voulez. Évidemment, puisqu'ils ont la science de leur époque. Par contre, au niveau de ce que ça peut vouloir dire, si on parle du deuxième pôle, finalement, de l'expérience mystique, ou de ce qui fait sens, de la valeur des différentes choses, par exemple de dire ben, que chaque bête... à son intérêt propre, et c'est pour ça que Dieu les crée, je dirais, distinctement les unes des autres, chacune selon son espèce. Mais il ne faut pas forcément en tirer la leçon qu'en tirent par exemple des créationnistes pour dire non, il n'y a pas une origine unique du vivant sur Terre, il n'y a pas cet ancêtre commun finalement qui est peut-être une amibe ou une paramécie ou je ne sais pas quel acide aminé qui a pu apparaître dans un coin d'une comète ou que sais-je, mais Mais c'est pas de ça dont on parle, si vous voulez. On parle d'autre chose, de la valeur des choses. C'est plutôt de l'ordre de ce qui a pu être révélé à Paul au troisième ciel, dans un sens. Ou alors une méditation sur la valeur du réel. Voilà. Alors, sur l'intérêt de la science, je le vois aussi, si vous voyez, dans Matthieu 2, les mages, ce qu'on appelle les rois mages. Bon, ils étaient peut-être pas rois, mais. En tout cas, ils étaient mages et ils arrivent à Jésus-Christ en suivant l'étoile. Donc là aussi, on nous dit à travers ce texte, si vous voulez, qu'à travers l'observation de la nature, à travers une observation intelligente de la course des astres, à travers la science, on peut être mis en route d'un pays étranger au Christ, d'un pays, donc, je dirais, où on est étranger à Dieu, étranger au bien, étranger, on peut le décliner sur tous les plans, si vous voulez, de l'existence humaine. On peut être mis en route par la science, par sa science. Alors, évidemment, ça patine un peu, cette science, quand même, dans ce texte, parce qu'ils arrivent du côté de Jérusalem. Bon, déjà, bravo pour la science, parce que quand même, ils ont été mis sur la piste, mais là, ils savent plus trop, quoi. Ils hésitent, ils patouillent un peu. Et donc là, ils font appel aux théologiens du coin. Donc, on pourrait dire, ils font expérience à la Bible, ils font appel à la Bible pour comparer, compléter la science, pour pouvoir aller un pas plus loin. Et là, ça remet en route l'étoile qui va, du coup, bien brave étoile, qui du coup, se remet à affiner sa révélation jusqu'à Bethléem, ce qui était quand même pas mal, je dirais, comme. Finalement, ils arrivent à l'étable, la fameuse étable, la mangeoire dans laquelle est le Christ, et puis finalement. Ils ont là un songe divinement averti. En songe, ils rentrent par un autre trajet. Donc à ce moment-là, la science, si vous voulez, a pu. La science, épaulée peut-être par la culture, épaulée par la Bible, épaulée par l'expérience théologique, réflexion théologique des uns des autres, eh bien, permet quand même d'avancer, mais finalement, c'est quand même l'expérience mystique qui va prendre le relais pour retourner chez eux transformés. Mais voilà, il y a un peu la collaboration là de la science, de la culture, de la théologie, de la philosophie, des sciences humaines peut-être, et puis la mystique qui permet de retourner transformé chez soi après l'expérience du Christ finalement. Donc là, il y a une proposition, je pense, de mise à sa place, à la fois de valorisation de la science, mais la contrebalancer par de la culture et qu'elle sache à la fois sa limite, s'incliner devant quelque chose de plus grand et de plus, voilà, qui mène plus loin, qui est la rencontre avec le Christ qui donne une transformation de l'homme capable d'être en ligne directe avec Dieu, de plus avoir à la limite besoin, ou alors, ouais, plus besoin peut-être ou d'aller au-delà, ou qui. Oui, ça va au-delà parce que, à la limite, c'est comme peut-être un peu comme comme dans le psaume, la science, la Bible peut apprendre des choses. Mais en définitive, la transformation de ces mages comme des sujets capables d'être directement éclairés par Dieu, c'est la rencontre avec le Christ quand même. Et ça, c'est autre chose que de la connaissance. Peut-être que comme dans Romains, la science, elle va pouvoir rendre gloire à Dieu, c'est-à-dire nous permettre de rendre gloire à Dieu, c'est-à-dire de se rendre compte que Dieu est source d'une dynamique d'évolution. Alors ensuite, reste encore la deuxième partie du boulot, qui est d'être au bénéfice de cette transformation, de ce déplacement que peut apporter Dieu. Alors déjà sur cette première partie, si vous voulez, de la science et de la foi, bon, ça a l'air, tout le monde a l'air. Quoi?
Faire des remarques, c'est ça?
Oui, bien sûr.
Moi, je voulais juste dire sur un point, quand on dit qu'effectivement, que Jésus est la lumière du monde, cette
Ouais.
idée de lumière qu'on retrouve assez
Oui,
régulièrement,
oui, oui, oui.
les dernières connaissances qu'on a, enfin, si je me trompe, mais sont pas si intéressantes que ça sur les ondes magnétiques, justement, parce que finalement, le, pas sans être compliqué, complexe, oui, mais oui. Le photon, donc, est la lumière,
oui.
C'est une chose qui est pure énergie, qui n'a aucune matière, qui se déplace à une telle vitesse qu'effectivement, on se retrouve dans une situation où, en fait, le temps se contracte à l'infini, jusqu'à devenir finalement un point, ça on est vraiment la vitesse de la lumière, et qu'il est partout, finalement, et l'espace se contracte également. C'est juste pour dire, c'est pas une démonstration du tout, mais c'est que ce qui est intéressant, je trouve, dans les dernières évolutions de la science et de l'astrophysique, c'est finalement on trouve un. Ça, loin de démontrer que Dieu n'existe pas et qu'il n'y a pas de place pour Dieu, au contraire, ça démontre au contraire qu'il y a bien une place, une cohérence finalement, il y a un recoupement entre les écrits qui étaient juste inspirés et la réalité de ce qu'on voit. C'est juste un.
Oui.
Mais c'est vrai que c'est assez.
Oui. Oui. Alors. Oui, je crois.
Ça ne veut rien, c'est juste que c'est.
Ça, c'est ce que je proposais un petit peu, vous allez voir, sur le Genèse 1 que je mets juste après. Parce qu'effectivement, vous avez raison, ce n'est pas de l'ordre de la preuve.
Ah non, c'est ça.
Parce que le coup de la passoire anneau, il n'est pas divinement inspiré non plus, vous voyez. Donc c'est pour ça que, en même temps, oui, quand ça tombe bien, on est content et c'est sympa. En même temps, si vous voulez, il ne faut pas non plus être prisonnier de, de ces images. Parce que Jésus, la lumière du monde. Bon, c'est vrai qu'il y a plein de choses qu'on peut tirer intéressantes de cette comparaison. Cela dit, même les plus fondamentalistes de chez les fondamentalistes, ils ont quand même bien noté que à minuit, quand il n'y a pas le clair de lune, c'est quand même pratique d'allumer la lumière si on veut lire un livre, même si on a la foi en Jésus-Christ. Donc, c'est vrai que ça a quand même des limites, cette comparaison. Jésus, la lumière du monde, oui, dans un certain sens, en tout cas pas au sens littéral, littéral physique, ça veut dire plutôt que il y a une mise en lumière de notre existence, de la valeur des choses, des êtres, de Dieu, et que du coup on est donné, on a une autonomie possible, c'est-à-dire ça rend une liberté à la personne humaine de pouvoir défricher son propre chemin. Et donc de plus être dans une simple soumission, mais d'être dans une créativité possible, finalement, autorisée et bonne, puisqu'il voit les tenants et les aboutissants des choses, sans qu'on lui dise « tu vas me faire ça, sinon je t'envoie en enfer ». Non, je veux dire, on voit que le chemin, celui-là, est meilleur qu'un autre, et voilà. Donc, Genèse 1, effectivement, de la physique à la métaphysique, parce que ce que je voulais dire par là, si vous voulez, c'est que pour parler des choses invisibles, il faut d'autres mots, on n'a pas d'autres mots que ceux de la physique finalement. Parce que, vous voyez, on est démunis, effectivement. Ou alors il faut inventer des mots, des néologismes, mais c'est pas facile, parce que ensuite, c'est pas forcément une expérience commune à tous. Donc on utilise les mots du langage courant. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était un chaos, elle était vide. Il y avait des ténèbres au-dessus de l'abîme, et le souffle de Dieu tournoyait au-dessus des eaux. Dieu dit qu'il y ait de la lumière, et il y eut de la lumière, et alors c'est le premier jour, et c'est par la lumière des ténèbres. Mais cette lumière dont on parle, si vous voulez, c'est pas la lumière du sensible, puisqu'on voit que la lumière du sensible, dans ces jours, c'est le quatrième jour où il crée le soleil, la lune, et des luminaires, voilà, dans le ciel. Donc, c'est pas la lumière sensible, c'est pas les photons. Et donc, les Hébreux savaient très bien faire la distinction, si vous voulez. Donc, ce que nous dit ce texte, quand même, c'est qu'il y a... c'est une lumière qui est de l'ordre du spirituel, c'est de l'ordre de lumière. Jésus est la lumière du monde. Donc, on voit de quoi on parle. Du coup, le chaos, le tohu-bohu, le ciel et la terre, on comprend que là, il s'agit quand même... si vous voulez, il s'agit d'images, puisqu'on est avant, dans un sens, dans cette première partie, on parle de ce que parle de l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 12, vous voyez. Et c'est bien ça dont parle Jésus quand il dit « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura les lumières de la vie. » Ou alors, il y a un passage ensuite, c'est... au moment donc de la résurrection de Marthe, on dit voilà, ceux qui sont dans la ténèbre, c'est qu'il n'y a pas de lumière à l'intérieur d'eux-mêmes. C'est bien la question de cette Genèse, à mon avis, qui est de l'ordre du spirituel. Alors ensuite, Pour dire l'acte divin, si vous voulez, eh bien, comment va faire la Bible? Elle va souvent, c'est une mise en récit de l'acte divin, de cet acte de création de Dieu. Alors, c'est toujours délicat, si vous voulez, parce que il y a des endroits, c'est visiblement métaphorique. La Bible est visiblement métaphorique, littéralement métaphorique. D'autres endroits, ben, le doute est permis, si vous voulez. C'est des fois, c'est historique. Et puis des fois, c'est la plupart du... Enfin, souvent, c'est à la fois historique et métaphorique. C'est-à-dire, à partir d'un fait historique, ben, ils brodent un peu autour, ou alors, à l'occasion de ce fait, ils vont en tirer une leçon, une prédication. Donc, finalement, c'est ce qu'on a, par exemple, dans l'histoire de Noé, si vous voulez. Il y a une figure des humains qui font le mal, voilà. Tous les humains ne concevaient jamais que des pensées mauvaises. Bon, alors il n'y a que du mauvais chez l'humain. Mais il y a un homme qui est juste et intègre en son temps. Bon, alors je veux dire, c'est paradoxal. Si c'est tous les humains qui font le mal, il n'y a pas un Noé qui est juste. Hein. Je veux dire, c'est contradictoire. Bon, on voit bien que à ce moment-là, c'est une typologie qui est présentée. D'autant plus, si vous voulez, que Noé est juste et intègre. Il y a marqué intègre, mais intègre, c'est tamim, c'est parfait au carré, quoi. Là, il y a un clignotant qui, dans le texte même de la Bible, dit, bon, écoutez, je ne parle pas d'un monsieur Noé réel, je parle d'un Noé qui est une figure du juste et de la perfection humaine. Et de l'autre côté, ben voilà, tous les humains ne sont que pensées mauvaises, c'est une figure de l'humanité mauvaise. Alors, donc ce texte-là, j'allais dire, littéralement, dans le texte même de l'hébreu, il se présente comme étant métaphorique. Donc, ça ne veut pas dire qu'à l'époque, ils ne pensaient pas qu'il y a eu un monsieur Noé et un déluge. D'ailleurs, il y a sans doute eu un déluge, si vous voulez, pas un déluge comme marqué dans la Bible qui recouvre entièrement la terre. Ce n'est pas possible, il n'y a pas assez d'eau, de toute façon. Alors, est-ce qu'ils l'ont jamais cru qu'il y avait eu assez d'eau pour couvrir toute la terre? Je ne sais pas. Peut-être bien, c'est comme la passoire à nouilles, si vous voulez. Ensuite, qu'il y a eu des déluges, on le sait, c'est probable. Il y a eu des tsunamis d'hiver, diverses civilisations en parlent, c'est bien possible. C'est un bon coup de météorites qui tombent dans la mer Noire, par exemple, qui creusent le trou de la mer Noire, ou que sais-je, qu'il y a une sacrée vague qui emporte la moitié des gens, c'est bien possible. Et que de cela, ils brodent ensuite une histoire, peut-être. Donc il y a peut-être un substrat historique, mais en attendant, le texte même de ce récit, bien entendu qu'il est métaphorique. Et donc il ne parle pas de l'histoire de Monsieur Noé, il parle de l'humain dans ce qu'il est juste et dans ce qu'il est pécheur. Et voilà de quoi on parle. Alors ensuite, on ne peut pas dire oui, mais la Bible raconte n'importe quoi. Et non, parce que si vous voulez, c'est une interprétation qui peut dire n'importe quoi, mais en elle-même, cette Bible-là, elle ne dit pas n'importe quoi. Elle parle, mais c'est très discutable, en tout cas, bien sûr, sa figure de Dieu dans ce récit. Figure de Dieu qui d'ailleurs évolue, puisqu'au début c'est un Dieu qui est vengeur, qui tue le méchant et qui sauve le juste, et puis ensuite c'est un Dieu qui fait alliance avec un homme tel qu'il est, à moitié juste, à moitié pécheur. Donc il y a cette évolution, mais en tout cas on ne peut pas dire que ça n'a pas de sens au point de vue scientifique. Bien sûr, pas plus que la Genèse ne parle pas d'une création en 7 jours de 24 heures, c'est pas du tout de ça dont il est question. C'est pas la question. D'ailleurs, on voit, par exemple, dans Paul, qu'on propose une interprétation allégorique de cette histoire, aussi bien du déluge que de la mer Rouge, que de ce qu'on avait, j'évoquais tout à l'heure avec la gloire de Dieu dans le désert. Tout cela, il le comprend comme étant métaphorique, c'est-à-dire comme Jésus est la lumière du monde, il le comprend comme étant du deuxième degré pour parler de ce qui est de l'ordre de 2 Corinthiens 12. Hein, voilà, de ce qu'apporte Dieu pour cette mise en route, cette libération de l'humain, cette purification de l'humain. Alors, il y aurait 1000 exemples à vous donner, j'en donne 2 pour la suite dans les évangiles avec Jésus, qui explicitement lui-même relie métaphoriquement, allégoriquement, la guérison de l'aveugle-né. Alors, est-ce qu'il y a eu guérison ensuite physique de l'aveugle ou pas? C'est pas impossible qu'il y ait eu des guérisons physiques autour de Jésus. Le Talmud dit qu'il était sorcier. Il aurait pu dire tout ça c'est que des contes pour bonnes femmes et c'est n'importe quoi, d'abord Jésus a même pas existé. Non, le Talmud il dit pas, il dit Jésus il a existé, c'était un gros nul Et puis, il faisait de la sorcellerie pour tromper les gens. C'était un sorcier, il guérissait pour tromper, pour embobiner les gens. Donc, si vous voulez, peut-être qu'il y a eu des guérisons physiques autour de Jésus. Ensuite, comment ça s'est passé, il peut y avoir 1000 explications possibles. Mais ce n'est pas tellement la question, puisque l'intérêt de ce texte est de toute façon plutôt métaphorique. C'est ce qu'on voit aussi dans Marc 6, par exemple dans la multiplication des pains. Manifestement, donc des multiplications des pains, il y en a, je sais pas, 7 ou je ne sais pas quoi dans les évangiles. Il y en a 2, par exemple, dans Marc. L'insistance évidente, c'est sur le nombre de machins. Nombre de pains, nombre de corbeilles. Donc il insiste beaucoup sur le nombre de pains, deuxième fois sur le nombre de pains, après sur le nombre de corbeilles, le nombre de pains qui restent, machin, le nombre de personnes. Et puis à la fin, il leur dit, alors vous ne comprenez pas encore, mais ça y est, ils ont compris, parce que Jésus leur a dit, bon écoutez, comptez les nombres hein, et vous comprendrez. Et puis eux, c'est tellement évident qu'ils comprennent. Donc vous voyez qu'on n'est pas là dans la question, ben voilà, les gens avaient faim, comment est-ce qu'on peut transformer le pain pour qu'il y en ait assez mangé pour 5000 personnes? C'est pas la question, si vous voulez. Donc, à la limite, je crois qu'à ce moment-là, on peut chercher à faire du concordisme, c'est-à-dire, voilà, ben, comment est-ce que c'est possible que les Hébreux traversent la mer Rouge avec la mer qui s'écarte? Alors, c'est vrai que parfois, l'eau n'est pas très profonde, qu'il y a un courant d'air, que l'eau peut un peu s'écarter, puis que machin. Mais ça n'a aucun intérêt, si vous voulez. Ça n'a aucun intérêt, ou le déluge dit, voilà, peut-être qu'un grand bateau, si on compte hyper grand bateau, qu'au nombre d'espèces, là, ça n'a aucun intérêt, parce que ce n'est pas la question. La question, c'est de savoir ce que ça veut dire, et d'essayer de comprendre en quoi ça parle de nous. Littéralement, c'est fait pour ça. Alors, ensuite, chercher le substrat historique derrière, pourquoi pas, ça peut être, c'est pas inintéressant, mais ça intéresse plus à ce moment-là les historiens que le croyant, le philosophe, ou le théologien. Alors ensuite, si vous voulez, je m'intéressais un peu à la méthode scientifique, si vous voulez, parce que c'est pas simplement, j'allais dire, la science qui peut nous apprendre quelque chose sur la création et donc sur le créateur. Alors sa parenthèse. Moi, je crois que oui, effectivement, la science nous apprend quelque chose. C'est ce que un peu les dernières recherches ont un peu montré autour de ce qu'on appelle en français le fine tuning. Si vous voulez, que la nature est si bien faite que si on change une seule des variables, des grandes valeurs, si vous voulez, des forces et des éléments au niveau de l'atome, jamais il y aurait pu y avoir une seule molécule. Le fait même qu'il puisse y avoir des molécules, c'est un miracle absolument incroyable de qualité de la matière. Et puis cette évolution, si vous voulez, que maintenant on nous montre, bon, ça fait penser quand même à une source de l'évolution. Enfin bref, l'observation de la science, à mon avis, effectivement, aujourd'hui et de plus en plus, renvoie à l'existence d'un Dieu. Comme étant une source non seulement d'un Dieu créateur, je veux dire, non seulement possible, mais plausible, plus plausible que l'inverse. C'est pas pour ça qu'on croit en Dieu, parce que si la science nous avait montré qu'il n'y avait jamais eu d'évolution, c'est là finalement qu'on serait le plus gêné et que les athées seraient triomphants. D'ailleurs, les plus grands opposants de l'évolution, c'est pas les croyants, c'est plutôt les athées qui freinent des quatre fers pour dire qu'il n'y a pas eu d'évolution. Parce que l'évolution est tout appel. Bon, et puis comme vous disiez, la physique quantique, les dernières découvertes, avec ce caractère probabiliste, ce caractère, ce chaos finalement, l'existence même d'un électron, c'est pas une existence, je dirais, comme le matériel sensible peut exister, c'est une existence tout à fait paradoxale. Et donc ça montre que, oui, au niveau de l'infiniment petit ou de l'infiniment grand, il y a cette matière qui est absolument prodigieuse et qui est tissée de chaos, quoi, et qui tend au chaos, en fait. Donc le fait qu'il y ait complexification dans l'univers et qu'aujourd'hui on soit quand même des êtres sensibles, capables de réfléchir, capables d'aimer, il y a une telle complexification que ça rend quand même l'existence d'une source extérieure à l'univers matériel comme étant plutôt plausible comme hypothèse. Alors, ce n'est pas du tout une preuve, c'est uniquement, j'allais dire, en termes de plausibilité, de possibilité, plus. C'est une hypothèse plus possible, peut-être un peu plus possible, je pense, que l'existence du matérialisme pur. Alors, ça, on peut effectivement déduire de la nature qu'il y aurait comme un dessein, si vous voulez, dans la nature, mais pas forcément un dieu qui, avec ses petits doigts. Manipule les choses. Mais alors là, si vous voulez, ce qui m'intéressait, c'était plutôt l'idée de méthode scientifique comme étant proposée dans la Bible, c'est-à-dire de fonctionner par l'expérience et de se perfectionner par l'expérience. Alors, par exemple, Abraham et Sarah qui tentent d'avoir un enfant, donc ça va leur prendre quand même de Genèse 12 à Genèse 21 quand même. Dieu leur dit, vous allez avoir un enfant, même une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Pas encore la science qui apparaît. Ils disent, bon, ils attendent, ils disent, ça va venir, ça ne marche pas. Et donc, ils apprennent de l'expérience, hein. Ce n'est pas juste en se croisant les bras que, pam, ça va venir. Alors, ils disent, ben, puisque ça ne marche pas normalement, on va prendre une mère porteuse. Alors, ils font comme ça, donc finalement, ils se débrouillent, ils apprennent, ils essayent de se perfectionner. Ils disent, ben, ça ne marche pas comme ça, j'essaye autre chose. Ils font des expériences, hein, finalement. Avec une mère porteuse, ça marche un peu mieux, mais il y a quand même des problèmes, si vous voulez. Problèmes de jalousie, de machin, ça ne va pas trop bien. Et finalement, ils vont s'ajuster. Et c'est là qu'on retrouve peut-être le fine-tuning. Ils s'ajustent avec Dieu, avec une juste place, avec un accueil des trois anges, encore du délai, et finalement, ils vont y arriver. Donc là, on voit une méthode un peu expérimentale qui, en tâtonnant, arrive finalement à s'ajuster et avec Dieu et avec la réalité, finalement. Je pense aussi à Jacob. Jacob, si vous voulez, il a une certaine théologie. Il a une expérience mystique, donc ça c'est Genèse 28, il a une expérience mystique avec l'échelle de Jacob, avec les anges qui montent et qui descendent. Et finalement il a cette révélation d'un Dieu qui lui dit, mais je te bénirai, tu auras des enfants, je ne sais plus si c'est comme les étoiles du ciel ou comme les poussières de la terre, et puis je t'accompagnerai, je serai avec toi et je t'aiderai à rentrer, dans le pays que je te donne et ça va être génial. Alors il a cette expérience mystique, mais il dit, oui, enfin bon... Si l'Éternel, effectivement, m'accompagne et que puis ça marche bien et que mes affaires marchent bien, à ce moment-là, d'accord, je croirai à ma mystique. Donc, vous voyez, il y a l'idée, de l'expérience mystique, oui, mais de la pondérer par l'expérience du réel. Et donc, finalement, il y a là, dans cette façon de voir les choses, il y a la mystique et puis... il y a aussi le réel, et les deux se pondèrent, et les deux sont en dialogue, et les deux permettent finalement ainsi de s'ajuster. Et ça, je crois que c'est le propre de l'humain, d'être en tension entre la terre et le ciel, entre le monde des animaux, de la matière, et de Dieu, et donc c'est normal qu'il y ait cette... Alors on pourrait voir aussi, j'ai marqué Jonas... qui évolue à l'usage de théologie, qui se rend compte dans, là encore c'est un conte bien entendu, mais se rend compte dans des expériences sensibles, expériences de foi, tissées les unes avec les autres, dans l'expérience donc de son kikayon, qui est une plante, une courge ou un tournesol, je ne sais pas ce que c'était, enfin bref, qui sèche, qui, alors que ça lui faisait une ombre agréable sur la tête et... Du coup, il s'ouvre à travers cette observation à ce que ça pourrait être la bienveillance de Dieu pour l'humain. Donc ça, c'est la méthode scientifique qui, à mon avis, est proposée dans la Bible comme étant aussi une façon de faire de la théologie et de tisser notre expérience sensible et notre expérience mystique. Ensuite, il y a Jésus qui appelle à la réflexion personnelle d'une manière très, très forte. Donc là, on pourrait commencer d'abord par Genèse 2, effectivement, où l'humain est appelé à nommer les animaux. Donc là aussi, de faire, j'allais dire, de la science, mais en même temps, c'est donc de l'observation de la nature, mais en même temps de nommer, c'est-à-dire de dire sa valeur, de mettre une place. Donc c'est une réflexion qui est de l'ordre du sens, de la valeur. Et là, je pense qu'effectivement, on est dans le spirituel, dans l'intelligence, dans l'intelligence, pas simplement dans l'expérience. Alors Jésus, C'est bien connu, hein, dans Marc 12, il reprend le schéma Israël. Tu aimeras le... Écoute, Israël, le Seigneur, donc l'Éternel est votre Dieu. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Ça, c'est le schéma Israël. Et Jésus ajoute de toute ton intelligence, de toute ta réflexion personnelle. Et ça, c'est du Jésus tout craché. Et il ne fait pas simplement de le dire, ce qui était extrêmement provoquant, parce qu'il ne le dit pas que pour des théologiens patentés ou pour les synodes et les conciles, mais il le dit dans le cadre du chemin Israël qui est donné à tous les croyants, aussi petits et grands soient-ils, le matin en se levant, éducation des enfants. Et donc là, le devoir, la responsabilité d'avoir une intelligence finalement... je dirais, de la vie et de la foi. Alors, on pourrait le comprendre comme le comprennent les intégristes en disant ben, il faut aimer Dieu jusqu'à sacrifier son intelligence, qu'aimer Dieu, c'est sacrifier son intelligence, mais pas du tout, parce que Jésus passe son temps, au contraire, à faire appel à l'intelligence et à essayer d'éveiller l'intelligence avec ces petites paraboles qui énervent prodigieusement les disciples, parce qu'ils disent « mais on comprend rien, tes saloperies de paraboles, tu veux pas parler un peu clairement de temps en temps ?» Ils s'énervent, mais Jésus leur dit « non, c'est comme ça que c'est, il faut faire. C'est comme ça qu'il faut faire pour éveiller l'intelligence de chacun. » Et donc, par exemple, Matthieu 5, Jésus est venu non pour abolir la loi, mais pour l'accomplir, et donc au moment où il l'accomplit, « vous avez appris qu'il a été dit, mais moi je vous dis », puis ensuite il dit des machins qui sont... inapplicable. Par exemple, ne résistez pas aux méchants. Ce n'est pas un modèle de société, c'est absolument impossible, c'est épouvantable, on ne peut pas laisser les gangsters gangsterisés, les pédophiles pédophilés, c'est impossible. Donc, ça appelle à la réflexion personnelle pour savoir quand et combien ça pourrait être juste. Alors ensuite, puisqu'on est dans l'intelligence, puisqu'on est dans l'appel à la méthode finalement un peu scientifique, expérimentale, eh bien, on voit à l'œuvre une façon de penser qui est à la fois humble et ouverte, qui est proposée. Parce que, finalement, comme en science, il y a manifestement une pensée humaine qui est une modélisation de la théologie et de l'éthique. Et donc, elle doit en même temps se développer, se discuter, mais en même temps, elle doit rester humble et ouverte. Et c'est ce qu'on voit même dans Jésus. Il dit « voilà mon plan, en fait ». Éloignez de moi cette coupe. Et puis, il dit toutefois, non, ma volonté, mais que la tienne se fasse. Donc, ensuite, il y a quand même, il développe un projet, mais il y a cette humilité de se dire, bah, c'est peut-être pas le top, et il en discute avec Dieu. Et puis, il y a ce passage fondamental, j'allais dire, dans 1 Corinthiens 13, qu'on connaît tous par cœur, parce qu'il est dans 9 dixièmes des mariages, et je dirais, c'est un des plus beaux passages de la Bible, sauf qu'on ne lit pas la partie normalement que j'ai mis là. Nous connaissons en partie, finalement. Et ça, c'est fondamental, finalement. C'est absolument fondamental, cette histoire de « nous connaissons en partie hein, », ek merus, parce que c'est une pensée, si vous voulez, qui n'est pas une pensée du tout vrai, tout faux. Ça, c'est une pensée, c'est tout à fait mortifère, parce que du coup, forcément, on est dans l'idolâtrie de la connaissance, ce qui rend la vie avec les autres impossible et ce qui rend tout mouvement impossible et toute ouverture à Dieu impossible. Donc c'est tout à fait mortifère. Mais avec le ek merus, eh bien, on est dans cette connaissance en partie. Une connaissance comme un enfant, une connaissance dont on sait qu'elle est floue et donc qui invite, mais ça c'est le doute scientifique finalement, qui permet sans cesse eh bien, d'évoluer dans les théories scientifiques, de les affiner, et de savoir ce qui reste, ce qui demeure. Ben, ce qui reste, ce qui demeure, ben, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la qualité d'être, du mouvement, donc la confiance finalement, l'espérance et l'amour, qui sont des choses qui ne tombent pas et qui demeurent éternellement. Alors, ensuite, ben, c'est à peu près tout ce que je voulais dire, si ce n'est que dans l'exégèse biblique, c'est un formidable, si vous voulez... champ d'exercice finalement de cette intelligence et de cette recherche de ce que nous pensons sur Dieu, sur le monde, sur la vie. Pourquoi ? Parce qu'il y a une pluralité des points de vue importantes, il y a des genres littéraires différents, Et puis on peut s'ouvrir aussi donc aux méthodes de raisonnement qui sont proposées, qui sont, j'allais dire, qui tirent du sens des textes, comme on l'a vu donc par exemple avec Paul qui relie la traversée dans le désert, la traversée de la mer Rouge, ou pour Jésus avec ses histoires de pain, ou l'histoire de la lumière du monde. Donc d'essayer de tirer du sens de tout cela pour chercher non pas la vérité, mais chercher des modèles de compréhension, de débat, de ce que peut être notre pensée sur Dieu et sur le monde. Voilà donc ce que je voulais vous dire sur Bible, science et foi. Alors dans ce petit passage, il faudrait regarder de près, il y a trois mots différents.
C'est pas nous.
Alors il y a nous, il y en a trois là-dedans, parce que juste après ce petit passage, il y a marqué, il y a un homme qui dit, bon, il pose une question à Jésus, et je dis, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Et en fait, il y a deux mots intelligence différents, c'est vraiment le discernement, la compréhension, la réflexion.
Ma question, c'est pour savoir si c'est du domaine de l'intellect, les pensées intellect contemporain, ou si c'est l'intellect ici, qui n'est pas le même.
Moi, je dirais que c'est plus le discernement, moi, je crois. Mais j'avais étudié la question parce que j'ai fait une prédication là-dessus, sur le voyant avec toute son intelligence, et j'avais creusé ces questions. Et je sais qu'il y a deux mots différents, mais c'est bien l'intelligence.
C'est ça qui discrimine. C'est l'intelligence qui discrimine, ou c'est la sagesse, parce que c'est bina, c'est beaucoup pas.
Mais je vais regarder dans. Je vais prendre des renseignements précis pour ne pas dire de bêtises, parce qu'il y a plusieurs mots, mais.
Mais c'est peut-être proche de la bina, le jugement.
Moi, je pense que c'est plus voilà, le discernement, le jugement, les choses comme ça. Hein. Donc, c'est Marc 6, c'est Marc 12, 30.
Alors, peut-être que je commence en faisant un petit panorama ensuite de ce que cela est devenu. Hein, parce qu'évidemment, les textes bibliques, en 1000 ans, ont finalement condensé, je veux dire, la somme des expériences qui ne vont être que reproduites un peu différemment dans les siècles suivants. On le sent aujourd'hui, le rapport entre la foi et la raison, entre les sciences et la religion, est loin d'être résolu. Et on a quand même l'impression qu'il y a une question de pouvoir qui est en jeu, un pouvoir lié au savoir, comme si le fait de savoir faisait de nous quelqu'un de supérieur à l'autre. À défaut d'être riche, au moins on a le savoir que les autres n'ont pas. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu ça qui va animer les débats au fil des siècles, sachant que la plupart des théologiens, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient ensuite protestants ou catholiques, vont toujours veiller à ce qu'il n'y ait pas de divorce entre ce que nous appelons la foi et la raison, et on le verra notamment avec la fameuse encyclique de Jean-Paul II en 98. Là où il va y avoir, je dirais, des pondérations différentes, c'est en fonction de l'anthropologie des théologiens. C'est-à-dire que plus l'anthropologie va être pessimiste, avec des gens comme Augustin ou Luther et Calvin, plus la raison va être malmenée. Et plus la grâce va être prédominante et nécessaire pour contrebalancer l'incapacité de la raison à accéder à ce qu'on appelait le réel. Commençons avec Augustin. Augustin, vous savez, développe le principe du péché originel et la traduction, c'est du coup l'ignorance de l'homme. L'ignorance de l'homme à l'égard du monde, à l'égard de la vie, à l'égard de Dieu, évidemment, et même à l'égard de lui-même. Autrement dit, la raison de l'homme pécheur serait une raison blessée. Et pour Augustin, qui considère que le but de la raison, c'est une vision béatifique du monde, eh bien, il va y avoir besoin du secours de la grâce divine pour, en quelque sorte, compenser cette blessure, pour parer à cette ignorance. C'est quelque chose qui va se poursuivre avec Martin Luther, mais entre-temps, il va y avoir quelqu'un comme Thomas d'Aquin, disciple d'Albert le Grand, qui va redonner au logos une place prépondérante. Alors, logos, c'est à la fois ce qu'il y a au début de l'évangile de Jean. Le logos était auprès de Dieu, le logos était Dieu, souvent le traduit par la parole, on peut aussi traduire par le verbe. C'est le mot que l'on trouve dans la plupart des disciplines. Dans théologie, c'est un logos, une parole sur Dieu. La géologie, c'est l'étude de la terre. Et tout ce qui est avec logie, à la fin, c'est le logos. Et Thomas d'Aquin, avec les scolastiques, vont reprendre les philosophes antiques, notamment Aristote, et vont reprendre cette idée d'une raison capable d'accéder au réel. Et alors, comme Thomas d'Aquin est tout de même un théologien, dominicain, il faut bien qu'il intègre la question de la raison. Et du coup, il va faire un couple, enfin, je veux dire, il faut bien qu'il intègre la question de la grâce, plus exactement, il va faire un couple entre la grâce et la volonté. Et la volonté, c'est ce qui est requis chez l'homme pour que la grâce puisse lui permettre d'accéder à la vérité. Donc, l'homme croit par grâce, et c'est la foi qui lui permet d'accéder à la plénitude de la connaissance, mais il faut qu'il y ait un acte de volonté de l'homme. En quelque sorte, ça sauve la partie spécifique de l'humain. Et c'est avec Albert le Grand et puis Thomas d'Aquin qu'on va avoir cette expression « l'intelligence de la foi » ou « la foi en quête d'intelligence ». C'est ce qui traduit cette expression latine qui court un peu et que plus personne ne traduit, la fameuse « fides quarens intellectum », donc la foi en quête d'intelligence. Autrement dit, la foi qui a besoin de savoir. Il y a une sorte de cercle comme ça. Il faut croire pour comprendre et il faut comprendre pour croire. Voilà, donc on trouve ce couple-là. Avec Martin Luther, donc là on arrive à la réforme du XVIe, donc lui aussi pose la faiblesse de la raison naturelle, notamment lorsqu'elle n'est pas instruite par la foi. Il a cette expression qui va être terrible. Il dit « la raison est la prostituée aveugle du diable ». La raison est la prostituée aveugle du diable. Alors, souvent, c'est utilisé par les fondamentalistes protestants pour disqualifier tout dialogue avec les sciences et pour disqualifier finalement toute forme de science, considérer que la théologie n'est pas simplement la discipline maîtresse, mais qu'elle est la discipline. Et que si on veut savoir quoi que ce soit sur la vie, c'est du côté de la Bible, la révélation qu'il faut se rendre, et certainement pas du côté des sciences, puisque la raison est la prostituée aveugle du diable. Et en fait, il faut remonter à l'un des inspirateurs de Martin Luther pour comprendre ça, c'est Bernard de Clairvaux. Bernard de Clairvaux, qui, dans sa lettre 188, ce paragraphe sur la raison, « Notre raison veut tout éteindre par ses seules forces, pas moins. » Tout éteindre, on sent bien que Bernard Clairvaux fait partie de ces personnes animées d'une spiritualité qui est un feu d'artifice. Et la raison a tendance à tout étouffer, et comme si elle calmait le désir de vivre, comme si elle calmait le désir de Dieu. « Notre raison veut tout éteindre par ses seules forces, pas moins, et elle envahit tout le domaine de la foi. Elle grimpe sur les âmes suprêmes, explore les abîmes. Elle entre dans le mystère de Dieu en bousculant tout bruyamment, de sorte qu'elle le défigure au lieu de le rendre plus clair. Quand elle ne peut ouvrir une porte, elle la fracasse, et ce qu'elle ne rencontre pas sur sa route, refusant de croire, elle le nie. » Vous voyez, avant Max Weber, c'est un peu l'idée du désenchantement du monde. C'est que la science, finalement, évacue le merveilleux, évacue le surnaturel, et donc évacue Dieu. C'est cette idée selon laquelle, si on évacue le surnaturel, on évacue Dieu en même temps. Et Bernard de Clairvaux veut tout à la fois. Il veut à la fois la morale, qui lui donne une vie juste, bonne, et puis aussi cette piété, peut-être qui confine parfois à la mystique, qui lui donne l'exaltation, qui lui donne la vie belle. Néanmoins, il faut rééquilibrer la pensée de Luther, parce que ce que Luther va dire, il va être l'un des premiers, hein, c'est le début de l'époque moderne, c'est qu'en fait il faut séparer les domaines. Et cela, on va très bien le comprendre avec sa doctrine des deux règnes, le règne temporel, et le règne spirituel. C'est-à-dire que la raison a sa raison d'être pour les choses matérielles, les choses terrestres. Et la grâce, la foi, c'est pour préparer le règne spirituel. Autrement dit, Luther dira, si je veux bâtir une maison, si je veux travailler, etc., eh bien, je me fierai à ma raison. En revanche, pour les questions de Dieu, les questions spirituelles, pour les questions de l'âme, pour la question de la vie éternelle, alors c'est la foi qui est en jeu. Pour connaître Dieu, c'est la foi qui est en jeu. Lui aussi hein, parle de cette alliance entre la raison et la foi. Je vous fais cette citation. « Nous croyons que l'intellect, le cœur et la volonté de l'homme non régénérés, laissés à leur propre force naturelle, n'entendent rien aux choses spirituelles et divines. » Donc il y a cette idée selon laquelle, s'il n'y a pas un dialogue, vous voyez, s'il n'y a pas une sorte de commerce entre la foi et la raison, alors il y a une dégradation de la connaissance. Mais en revanche, si l'homme est régénéré, autrement dit, la régénération dans l'esprit de Luther, c'est par exemple le baptême. Le croyant, le baptisé, est quelqu'un qui, du coup, peut avoir une sorte de plénitude par rapport à la connaissance. Je vous ai préparé un petit document. Il y a notamment deux citations de luthériens qui vont aller dans le sens de la radicalisation d'une raison... une raison faible, en quelque sorte. Donc, vous voyez, il y a d'abord Quintent. Adam disposait d'une science excellente, plénière, parfaite, telle qu'aucun homme, après la chute, ne peut en acquérir, ni à partir du livre de la nature, ni à partir du livre des Écritures. Mais après avoir reçu le Saint-Esprit, les apôtres en surent plus. Autrement dit, il y a cette idée de la chute, de la dégradation de l'homme, qui est donc incapable, par sa science propre, d'accéder au réel, mais il y a ensuite la dimension du salut. Avec Luther, on parlait de régénération. Ici, c'est le fait que, par le Saint-Esprit, les apôtres sont réhabilités dans la possibilité de savoir. Quant à Bayer, quant à l'intellect, le péché originel lui inflige une privation totale de lumière spirituelle, de sorte qu'il ne peut ni connaître Dieu droitement, ni donc prescrire parfaitement de quelle manière il faut adorer Dieu, et même dans les matières qui relèvent de la lumière naturelle, il inflige une certaine impuissance à connaître Dieu et à régler sa vie. Donc, c'est le moment où il faut bien comprendre que les sciences, qui avant étaient toutes intégrées sous le registre philosophie, et après on va développer l'astronomie, on va développer les mathématiques, etc., les sciences prennent de plus en plus de place. Galilée, Copernic, donne des coups de boutoir, etc. Et le savoir de l'Église est ébranlé, en fait. Et Luther va finalement en réagir, en retrouvant une sorte d'enclos qui n'appartiendrait qu'à la théologie. C'est-à-dire que, plutôt que de disparaître, il préfère réduire la voilure, en disant, eh bien ça, c'est la théologie. Ça, c'est le domaine de la théologie. Et finalement, il essaie de sauver la théologie contre le rouleau compresseur de la science qui est en train de tout emporter. C'est une hypothèse de ma part. Soyons précis. Calvin, c'est quasiment une génération après, hein, faut jamais l'oublier. C'est peut-être pour ça qu'il... Moi, je le trouve plus sympathique que Luther, sur le plan des idées. Calvin va avoir une pensée beaucoup plus généreuse à l'endroit de la science et de la raison. Il est avec une anthropologie très pessimiste, hein, l'homme est pécheur, il a besoin de la grâce, etc. Mais regardez ce qu'il dit dans son Institution de la religion chrétienne, dans le premier livre au chapitre 3. Hein. « Nous mettons hors de doute que les hommes aient un sentiment de divinité en eux, même d'un mouvement naturel. Car afin que nul ne cherchât son refuge sous titre d'ignorance, Dieu a imprimé en tous une connaissance de soi-même. » Nous serions tous dépositaires d'une parcelle de Dieu, en quelque sorte, qui nous donne accès au réel. Autrement dit, Calvin est quand même un grand perturbateur, parce que c'est un propos, une fois de plus, anti-aristocratique. C'est-à-dire qu'on est tous dépositaires de la capacité d'accéder au réel. Ce n'est pas que l'aristocratie. Moi, je crois que ça va dans le sens de son truc sur la double prédestination, mais bon, on ne va pas revenir là-dessus à chaque fois. Et je trouve assez intéressant son commentaire sur Genèse 1. Alors, je vous en ai mis comme ça deux paragraphes. Ça rejoint comme ça ce que Marc disait. Et je trouve que ça, c'est intéressant parce que ça nous donne un éclairage sur autrefois. Vous savez, on a toujours l'idée selon laquelle autrefois les gens étaient très ignares et ne pouvaient pas comprendre les choses telles que nous les comprenons, ce qui pour une part est vrai. On en sait plus que ceux qui nous ont précédés. Mais souvent, les auteurs de la Bible, on les prend quand même pour des gens superstitieux, qui connaissent rien à rien. Et on peut se dire, Calvin, finalement, c'est un peu la même chose quelques siècles plus tard. Eh bien, Calvin va essayer de sauver Moïse. Alors, c'est amusant parce que Calvin pense que c'est Moïse qui a écrit le livre de la Genèse, ce qui, sur le plan de la critique historique, est extrêmement contestable. Mais il va sauver le rédacteur de Genèse 1 d'une lecture naïve. Et voici comment il fait. Alors, voici ce qu'il dit plus exactement. Donc, je dis que Moïse... Alors, je dis que Moïse ne devise point subtilement, donc grosso modo, il n'est pas très, 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 très fine, quoi. Il va avec ses gros sabots, quoi. Enfin, il ne va pas dans le détail. Il n'est pas très futé. Et alors, quand il dit Moïse, vous voyez, c'est intéressant parce qu'il considère qu'il y a un auteur humain. Il ne parle pas de l'inspiration divine des Écritures. Il va parler de l'inspiration divine de l'interprétation, mais il ne considère pas que le texte est une révélation à caractère divin de type coranique, finalement. Donc, il y a un auteur avec ses idées, avec sa science de l'époque, avec son contexte, et il dit, il ne devise point subtilement comme un philosophe, et par philosophe, il faut penser scientifique, des secrets de la nature, ainsi qu'on peut voir en ses paroles. Et là, notre Calvin va nous faire une lecture critique de Genèse. Moïse fait deux grands luminaires, et toutefois, les astronomes prouvent par de vives raisons que le signe de Saturne, qui apparaît le moins de tous, parce qu'il est le plus loin, est plus grand que celui de la Lune. Eh bien voilà, Calvin va opposer la vérité scientifique à la vérité biblique. Et il va dire, sur le plan de l'observation de la nature, les scientifiques l'emportent. Moïse n'est pas très subtil, mais il va le sauver après. On va voir pourquoi Moïse a pu écrire comme ça. Mais pour Calvin, la Bible ne l'emporte pas sur les scientifiques, pour ce qui est la description de la nature physique. Voici la différence. C'est que Moïse a écrit populairement. Alors, ce n'est pas péjoratif. C'est que Moïse écrit en se servant du sens commun. C'est-à-dire qu'il rejoint son auditoire, ou son lectorat, ou les gens auxquels il s'adresse, dans leur compréhension des choses, dans leur croyance populaire, en quelque sorte, pour leur permettre de découvrir autre chose. L'idée de Calvin, c'est que si on dit les choses comme des scientifiques, c'est inaudible. De toute façon, si vous lisez des traités d'astrophysique, on parlait de mécanique quantique, si vous ne lisez pas d'ouvrages de vulgarisation, mais que vous lisez les traités des mathématiciens ou des physiciens, vous retournez à Évangile et Liberté, quoi. Et donc, l'idée de Moïse, c'est d'être lu. Donc, il a écrit populairement ce que tous les simples peuvent comprendre sans lettres ni doctrine, et les philosophes cherchent avec grand labeur tout ce que l'ingéniosité et la vivacité humaine peuvent comprendre. Il ne faut pas réprouver cette étude-là, ni condamner la science, comme certains ont accoutumé de rejeter audacieusement tout ce qui leur est inconnu. Car l'astronomie n'est pas seulement plaisante à savoir, mais aussi fort utile, et on ne saurait nier que cet art-là, donc l'astronomie, n'explique une admirable sagesse de Dieu. Donc là, ça va dans le sens de ce que Marc disait sur la contemplation de la nature renvoie à un créateur, et la contemplation de la nature suscite la louange. C'est pourquoi, de même qu'il faut louer tous les gens ingénieux qui se sont utilement employés en cette partie, de même, ceux qui ont le loisir et le moyen ne doivent point mépriser un tel exercice. Et aussi, Moïse ne nous a point voulu retirer de cette étude en omettant ce qui était propre à l'art, mais parce qu'il était ordonné maître tant pour les simples et les ignorants que pour les savants, il ne s'est autrement pu acquitter de son devoir qu'en s'abaissant à cette façon grossière. S'il eût parlé des choses inconnues, les idiots et les ignorants eussent pu prétendre que ces choses étaient trop hautes pour leur capacité. Donc c'est un effort de pédagogie, oui. Simple sans être simpliste. Un enfant comprend ce qui est écrit dans le livre de la Genèse. C'est pas conceptuel. Hein, c'est le langage sensible, mais le sensible de tous les jours. Et on n'arrête pas de le dire. Mais si on refaisait une traduction très littérale du texte biblique, eh bien en fait, on ne prendrait pas les mots qu'on utilise aujourd'hui. C'est-à-dire que résurrection, c'est toujours le thème qu'on prend, mais résurrection, ce n'est pas résurrection. C'est soit réveillé, soit relevé. Donc c'est les thèmes de la vie ordinaire. La foi, ce n'est pas la foi, c'est la confiance, ou ce que vous voulez. Et donc, c'est un langage populaire. Et ça a été sédimenté, et c'est devenu un langage technique. Puis avec une sorte de divorce vis-à-vis de la religion, c'est une culture qui est un peu devenue exogène, étrangère.
Parce que moi, ce que je veux dire, quand je dis la jeunesse, ça voulait être populaire, moi, s'il n'y a pas des pasteurs pour m'expliquer ce que ça veut dire, je ne comprends rien. C'est-à-dire que c'est assez... c'est pas si simple, si populaire que ça.
Il y a plusieurs degrés de compréhension.
Ouais.
On peut le comprendre à un premier degré et déjà en saisir dans l'enseignement, et puis peut-être, à partir de là, essayer un petit peu de développer de façon
Ouais, tu me diras si je dévoie ta pensée, mais je crois que notre idée, c'est que toute la Bible ne nous parle pas de la même façon au même moment. Et que des fois, il y a des choses qu'on ne comprend pas parce qu'en fait, ça n'a rien à nous dire à ce moment-là. Mais c'est pas pour, ça ne veut pas dire qu'on soit sous-équipé, qu'on soit inintelligent, etc. C'est que ce texte-là n'est pas ce qu'il nous faut pour le moment présent. Et c'est en général la raison pour laquelle on ne comprend pas. Et dans une certaine mesure, je crois que les fameux professionnels de la religion, que sont les prédicateurs et autres, eux passent par-dessus ça avec la recherche académique. C'est-à-dire qu'ils rejoignent ce que les uns et les autres sont susceptibles de vivre et qui peut être en écho avec ce que les textes bibliques ont à dire. Voilà. Moi, je crois que c'est ça, en fait, le travail de l'Esprit-Saint. Le travail de l'Esprit-Saint, c'est la mise en relation des personnes... des personnalités. Donc, le témoignage intérieur du Saint-Esprit, c'est quand on tient compte d'autres expériences que la nôtre pour faire vibrer un texte.
Et puis la question, c'est pas tant ce que va tirer le grand savant, le fameux savant de Marseille dont on parle tant, mais c'est plutôt en fait.
Alors, est-ce que là, c'est Dieu qui est intervenu, ou est-ce que c'est juste la force de gravitation?
Mais c'est plutôt la question qu'on se pose à partir du texte. C'est-à-dire... Ben, merci. Merci beaucoup. Je me suis pris les pieds dans mon film, merci. Hein. Mais c'est plutôt le...
Et on ne profite pas pour...
Mais c'est plutôt l'idée, si vous voulez, quand on lit, par exemple, le Genèse avec le chaos, etc., on peut se poser 1000 questions, si vous voulez, sur les mots, sur ce que ça veut dire, sur l'intention du texte, sur l'époque de rédaction... sur ce que ça a été tiré de l'épopée de Gilgamesh, d'autres choses, sur par rapport à la physique quantique, le hasard, qui est, voilà, le côté probabiliste des électrons, etc. Bon, on peut faire ça. Mais n'empêche que la lecture naïve qui arrive devant ce texte, il se dit, où est le chaos dans mon existence? Qu'est-ce qui fait lumière dans mon existence? En quoi est-ce que Dieu vient dedans? C'est ça, finalement, la question. Et là, le croyant, le savant, sont tous égaux, finalement, dans cette question, face à ce texte, pour se poser des questions sur son existence. Et ça, comme dit James, il y a un passage, peut-être ça ne nous dit rien aujourd'hui, parce que cette question-là, aujourd'hui, elle ne nous touche pas, que ce n'est pas la question, mais on va arriver à un texte après. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas déplier les paraboles de Jésus ou je ne sais pas quoi en disant voilà le sens de ces paraboles. Non, le sens de ces paraboles, c'est qu'il faut les lire en se posant des questions sur sa propre vie, point, c'est tout. Après, chacun son niveau. L'enfant le lira à un niveau et le savant le lira à un autre niveau et c'est comme ça qu'on va s'en sortir.
Alors, on a souvent l'idée que l'Église catholique en est restée au Moyen-Âge au niveau de l'intelligence. Vatican I. Deux petites citations alors, extraites de leur contexte, hein, je suis d'accord. Enfin bon, quand même, ce sont des phrases qui existent. « Si quelqu'un dit que le Dieu un est vrai, notre Créateur et Seigneur, ne peut être connu certainement par la lumière naturelle de la raison humaine, qu'il soit anathème. » Comme assez explicite. Deuxième phrase. « L'usage de la raison précède la foi et nous conduit à elle à l'aide de la révélation et de la grâce. » Donc, ceux qui disent que la théologie catholique est infantilisante peuvent quand même aussi réviser les classiques. C'est-à-dire que la foi a besoin de la raison parce qu'elle a besoin du langage, parce qu'elle a besoin de l'expression, de la communicabilité. C'est ce que dit Paul. Hein. Finalement, je n'aurais pas la foi si je n'avais pas été au bénéfice d'une prédication que j'ai entendue. Donc, il faut bien qu'il y ait de la raison, il faut bien qu'il y ait du logos.
Oui. Je veux dire quelque chose, parce que
oui, dites.
C'est un point de vue, mais ces phrases-là, notamment, pour moi, corroborent le fait qu'effectivement, au contraire, la logique catholique, il y a une volonté de mettre une part. Je ne dis pas que c'est encore une capture aujourd'hui, hein, mais ouais. Une volonté permanente de mettre une distance entre les croyants de base et le texte, en disant, en gros, si vous n'avez pas la raison pour le comprendre, vous ne pouvez pas le comprendre. Et on arrive à des situations où il y a des gens, notamment les parents, qui arrivent à des situations où ils se disent... Oh, on parle tellement qu'il faut, même chez les protestants maintenant, qu'il faut absolument connaître le latin, l'hébreu, le machin pour aller comprendre les textes. Puis il faut passer par un pasteur pour aller comprendre parce qu'on ne comprendra pas nous-mêmes. Je suis en totalement désaccord, total désaccord, parce que je pense qu'effectivement, avec une simple sensibilité et la prostituée qui avait touché la robe de Jésus, simplement, dit ta foi, va, ta foi t'a sauvé, elle n'a pas fait d'études bibliques pour arriver à comprendre. Va, ta foi t'a sauvé.
Et ce que disent en fait ces deux phrases, il n'y a pas de subordination du peuple au clergé, par exemple. Ouais, l'idée, c'est une raison.
Il ne faut pas aller dans les. C'est bien de dire tout le temps, il faut. Même sans avoir. Même dire quelqu'un qui n'aurait pas. Pour dire les choses encore plus simplement, quelqu'un qui aurait une voix très très simple et qui aurait même du mal à s'exprimer en français, qui aurait même du mal à connaître. Qui parlerait mal, éventuellement, peut très bien avoir une foi et accéder au texte, ou sans accéder au texte, arriver à comprendre, je pense. Et je pense que les Bibles, notamment, je parle aussi des Bibles en langage courant qui sont distribués parfois en prison, avec des gens qui ont. Des fois du mal hein, à accéder à des textes plus compliqués parce qu'on parle de foi, de résurrection, des mots qui ne sont pas forcément évidents à comprendre. Moi, je ne suis pas contre. Les Bibles en français courant sont très très simplistes, peut-être très simplifiées, qui s'écartent forcément un tout petit peu, parce que la traduction s'écarte un petit peu de la beauté pure, du puriste du texte, mais qui permettent d'avoir un accès de la foi. Qui est
de la beauté ou des mots et donc du sens.
Oui.
Bon.
Bah, oui.
Alors, pour ensuite. Ce qui est du rapport entre Dieu et le monde et entre la religion et la science. La question est de savoir si Dieu agit dans le monde et du coup s'il intervient dans les équations, par exemple. Hein, on pourrait à la limite se demander si Dieu modifie les équations de la physique quand il intervient. Ton frère Louis avait considéré qu'on n'avait jamais pu trouver une situation où des gens qui prient dans une pièce modifient les lois de la physique. Bon. Et c'est jusqu'à preuve du contraire. Donc, les expériences de la physique semblent dire que la foi n'intervient pas sur les lois de la physique. Et alors ça rejoint le principe de non-contradiction qu'on trouve déjà avec Thomas d'Aquin et Albert le Grand. C'est que si Dieu est à l'origine des lois de la physique, c'est-à-dire si Dieu, en tant que créateur, met en place tout ce qui règle notre monde, alors il ne peut pas aller à l'encontre de ces règles qu'il a fixées. Donc il ne peut pas enfreindre la loi, il ne peut pas transgresser les lois de la physique. Donc il ne peut pas, pour la question des miracles, aller à l'encontre de... Enfin, je ne sais pas, quelqu'un qui tomberait, tombe, quoi. Il ne le supprime pas de la force de gravitation, quoi. Oui, allez-y.
C'est peut-être quelle loi de la physique, puisque si c'est le corps, ce qui est lié au corps humain, ça, par
Mais c'est donc, parce que...
Supposer que, par exemple, parce que je fais beaucoup de méditation, je vais englober beaucoup plus d'espace de synapse. Ma perception, enfin, c'est une perception modifiée même par les drogues, etc., amène à des synesthésies, à d'autres modes de perception qui ne sont pas ceux qui ont été programmés, entre guillemets, par l'évolution. Darwin dit qu'on a le milieu adapté, enfin, la perception parfaitement adaptée à notre survie. Mais peut-être que ça, c'est sur la relation avec du monde. Mais si on est soit militant, soit client, etc., et qu'on justement, on est modifié de ce côté-là, peut-être qu'on on se rapproche de la dent dont on parlait tout à l'heure, qui avait cette raison, cette forme d'exactitude, parce qu'il envisage, parce qu'il est capable d'envisager une totalité. C'est le principe Lucie dans le film de Besson, ou d'autres principes comme ça. C'est pas mal à la mode dans le film.
C'est la vraie liberté intérieure, en fait.
Cette possibilité d'englober tellement d'informations de manière un peu à 360 degrés, qui fait qu'on agit avec...
Mais quand vous dites cela, vous allez quand même dans le sens du mouvement de l'histoire qui a fait reculer Dieu pas après pas. C'est-à-dire qu'au début, on était Dieu, il est dans les éclairs, il est dans le mouvement des planètes. On considérait que c'est Dieu qui faisait tourner le soleil autour de la Terre. Bon. Et puis après, les lois de la physique ont montré que, en tous les cas, pour les grands corps, ça, non. Et puis ensuite, pour les différentes choses non plus. Il ne restait plus que l'homme dont le déchiffrement est loin d'être réalisé. Et finalement, dans une certaine mesure, l'homme est le dernier lieu où il y a de l'imprédictible. Et donc, ces zones d'ombre laissent, enfin, l'indétermination laisse effectivement de la place pour Dieu au sens d'une interaction d'ordre physique, physiologique. Exactement. Mais quand vous dites la méditation... crée des modifications. Bien sûr, le langage aussi crée des modifications. Le dialogue que nous avons là crée des modifications. Et le fait même de notre présence crée des modifications. Je reprends un peu de théologie du process, après tout, c'est quand même le moment où il y a eu une sorte d'interpénétration des mathématiques, de la physique, de la métaphysique, de la théologie. La théologie du process dit que nous sommes des data, nous sommes des données. Et ces données sont inaltérables. Et ces données donnent à notre monde une configuration particulière. Donc même à une échelle micro, on ne laisse pas le monde indemne. Et Dieu est à la fois ce qui permet de reconfigurer les données pour relancer l'histoire quand elle est un peu en panne, mais c'est aussi celui qui garde les données. La question est... On dirait aujourd'hui, où sont stockées les datas ? Eh bien, et dans une certaine mesure, c'est un peu la position de Spinoza aussi, sauf qu'il n'avait pas ces concepts-là. Dieu, c'est ce qui stocke les datas. Autrement dit, c'est la mémoire de l'univers.
S'il y a quelque chose de proche, peut-être pas chez Spinoza, mais c'est dans la Kabbale juive, c'était la notion de, que l'ordre des lettres dans la Bible qu'on a correspond à ce monde-là, dans cette temporalité-là. Mais retrouver la prophétie par la recherche kabbalistique, en fait, ça, c'est retrouver un ordre des lettres possible, mais qui serait une autre agencement matriciel qui poserait, en fait, ce serait la même révélation, mais adaptée à un autre monde ou à un autre état de conscience.
Et alors, toute la difficulté pour le croyant, c'est d'arriver finalement à trouver la place de Dieu dans ce concert des sciences. Parce que on n'a plus que l'imprédictible pour mettre Dieu, ou le principe d'incertitude de Heisenberg pour mettre Dieu, bon, bah, un jour, ça va peut-être sauter, ça. Et donc, c'est la raison pour laquelle un théologien comme Paul Tillich va repenser la question de Dieu en disant que Dieu, c'est la profondeur de l'être, c'est la préoccupation ultime, c'est ce qui, dans tous les domaines de notre vie, donne la profondeur, le caractère ultime, ce qui permet de dire le caractère ultime de chaque chose, de chaque situation, de chaque être, et du coup, de dire le réel dans cette dimension-là. Et ça peut entrer en dialogue avec tout le reste. Parce que il est quand même bon de savoir que ce n'est pas le soleil qui tourne autour de la Terre. Ce qui ne nous empêchera pas de continuer à dire que le soleil se lève à l'est. Et c'est ce que fait Moïse. enfin Moïse, le Moïse dont parle Jean Calvin, le rédacteur de la Genèse, peut-être qu'il n'est pas plus dupe que nous. Ouais, certainement, il n'en sait pas autant que nous. Mais finalement, il utilise le langage un peu populaire et faux, dans une certaine mesure, pour pouvoir faire passer des vérités qui, elles, ne sont pas de l'ordre de la nature, ne sont pas de l'ordre de la physique, mais sont de l'ordre de l'être, et de l'être avec l'autre, de l'être à autrui, et de la transcendance, de ce qui fonde notre identité, indépendamment de notre compte bancaire, de nos diplômes.
Et remonter progressivement vers le, plutôt vers l'ontologie que vers la causalité. Le problème qu'on fait tout ça avec un regard scientifique, c'est qu'on cherche une causalité linéaire. Alors que ça se trouve, c'est alors que c'est peut-être la vie, plus dans ce sens-là. Et donc, ce n'est pas un jeu de causalité qui se distribue dans le temps, mais c'est un jeu de causalité qui se distribue un peu comme des principes logiques. Des principes, et donc, ça ne dépend pas forcément du temps pour intervenir. Donc, c'est pas.
Il faudrait que le temps existe pour que ça dépende du temps, mais bon, c'est un autre sujet. Je vous ai fait une photocopie d'un numéro de Science et Avenir qui est sorti il n'y a pas très longtemps, peut-être fin décembre, qui reprend un peu les différentes positions des religions à l'égard de Genèse 1. Vous savez, et le Big Bang, alors. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de Big Bang ? Et donc, vous voyez, il y a une sorte de panorama des différents positionnements religieux et du rapport entre le religieux et le scientifique. Donc, on partirait de la gauche, c'est l'option littéraliste, le texte biblique est considéré comme un texte scientifique. L'univers et l'ensemble des espèces ont été créés en 6 jours, point. Et donc, ce n'est même pas qu'on soit dans le concordisme en disant « Oh, ben, les scientifiques, avec leur théorie du Big Bang, ils disent un peu ce qu'on dit, quoi. » Non, non, c'est le texte biblique est une révélation qui nous dit comment les choses se sont passées, point. Si on s'en tenait à la... Enfin, d'ailleurs, si on s'en tient à la physique, l'univers a 13,8 milliards d'années. Comprenez que pour un être humain, pour un croyant, c'est quand même pas la même chose de se dire que l'univers a 13,8 milliards d'années et qu'il y a eu une évolution des espèces, ou de se dire que l'univers a 6000 ans et que les choses sont les mêmes depuis le départ, que les choses sont actuellement telles qu'elles ont été créées au départ. Hein, parce que quand on parlait de la pluralité pour l'exégèse, etc., c'est pas possible de l'assumer dans ce registre du texte biblique Genèse 1 qui dit les choses telles qu'elles se sont passées puisqu'il y a unicité. Et les choses restent en l'état. Donc c'est univoque. Alors que quand on prend conscience de cette évolution et avec même des espèces qui arrivent, qui meurent, peut-être l'histoire de l'humanité qui prend un chemin, qui devient une impasse et puis hop, il y a une résurgence ailleurs, etc. Bon. Vous voyez, ça décrispe un peu quand même. Le concordisme, c'est l'autre type de créationnisme, c'est le créationnisme vieille terre. Et donc on dit, les 6 jours, ça représente 6 périodes, ou ça représente 6 longues périodes. Voilà. On s'arrange. C'est pour sauver le texte biblique, enfin, c'est pour sauver le caractère scientifique du texte biblique. Comme si le texte biblique avait besoin de la science pour être sauvé. Le texte biblique, il a besoin qu'on le lise pour être sauvé. Pas besoin de l'aval de je ne sais quelle académie.
Juste un truc, ça existe vraiment en France ? Il y a des gens en France qui croient au créationnisme ?
Oui. Ouais. Ouais. Ah bon. Ouais, ouais. Dans la Fédération pour les Standards de France, il y a les Adventistes du 7e jour.
Ah ouais.
Et donc, vous voyez le Centre d'études scientifiques historiques de Guiberteau. Bon. Vous avez la référence, donc vous pouvez suivre. Ensuite, la création continuée, c'est une sorte de sous-groupe. C'est cette idée selon laquelle la création s'est déployée, mais les espèces sont restées les mêmes. On augmente nos capacités d'être, mais il n'y a pas vraiment de modification. Les hommes ne sont pas en train de perdre leurs dents de sagesse, par exemple, dans cette perspective-là. Et la taille ne change pas.
Hein ? Celui qui s'opposait à Darwin, c'était Lamarck.
Non, il a précédé Lamarck. C'est un peu avant Darwin. Hein. Quoi ? Ah oui, tout à fait, oui. Sauf que Darwin, il a rajouté effectivement l'évolution, qui est un moteur intéressant pour faire évoluer les espèces. Hein. Que Lamarck n'avait pas tout à fait.
De quoi ? Oui, c'est plutôt créationnisme vieille terre qui est au goût du jour. Ensuite, l'intelligent design, c'est le dessin intelligent. Ça, c'est l'idée selon laquelle, par exemple, il y aurait un dynamisme créateur qui veut faire atteindre un point d'accomplissement à l'humanité, à l'univers. Hein, c'est cette idée selon laquelle c'est orienté. Il y a un programme, il y a un plan, il y a une perspective. La théologie du process ne fonctionne pas comme ça. Il n'y a pas un point oméga qu'il faudrait absolument atteindre. La théologie du process repense chaque situation pour elle-même. Le déterminisme, là vous voyez. Le principe anthropique, justement ça part de cette idée que l'univers est tellement magnifique de complexité, de beauté, de réalisation, les yeux sont bien en face des trous, les atomes, etc. C'est pas arrivé comme ça, quoi. Voilà. C'est tellement improbable qu'il y a donc soit une cause première, une cause efficiente, soit un créateur, Dieu. Donc voilà, c'est pas par hasard. Alors, on pourrait discuter du hasard aussi. Moi, ce que j'entends des scientifiques, c'est qu'ils n'ont jamais mis le doigt sur le hasard. Chaque chose est le résultat d'une cause. Alors des fois, il y a des multitudes de causes qui font que c'est imprédictible. Mais quelque chose qui serait sans être dans une chaîne causale, visiblement, ce n'est pas encore arrivé.
Sauf l'électron en lui-même. L'électron en lui-même, il a une existence qui est probabiliste, hein, qui est tissé au hasard. Hein. Le boson et des choses comme ça. Oui, tout à fait. Si, au contraire, au cœur même de la matière. Hein.
Alors ça, je crois que c'est du chaos plutôt. Le chaos, c'est de l'imprédictible dans un système déterministe. Mais c'est qu'on n'a pas la capacité de comprendre, en fait.
Et ça, je ne suis pas sûr, justement.
C'est qu'il y a des attracteurs étranges. Parce que... Oui, c'est l'observateur qui, finalement...
Non, on ne sait pas qu'on ne sache pas où il est, c'est qu'il n'a pas de position. Ça n'a pas de sens de dire ça.
Oui, c'est ça.
Donc, ce n'est pas le méchant qui dit qu'on ne sait pas où il est, c'est qu'il n'en a pas. Et ça, c'est impensable.
Je ne pense pas que ça relève du hasard, mais...
C'était pas du hasard, mais en tout cas, on peut pas dire qu'il y a des ordres de la
vision. Ouais. Ouais, je suis d'accord, mais bon, oui.
Ouais. Dans ces causes, on ne peut pas, à l'origine, dire comment elles interféreront. Et donc, il y a tout de même une réémergence du hasard.
Oui, mais vous voyez, quand on dit que ce n'est pas un hasard absolu, en fait, ce n'est pas un hasard tout court. C'est comme si on disait « Oh, c'est pas une laïcité ouverte » ou « c'est l'ultralibéralisme ». C'est plus le libéralisme, enfin bon. Ce que je veux dire, c'est que je disais l'imprédictible, c'est des fois le dernier lieu où on arrive à caser Dieu, et d'autres voudraient le caser dans le hasard, avec la fameuse phrase de Einstein, Dieu qui joue au dé, incognito, etc. Et d'autres qui disent, oui, il joue, mais avec des dieux pipés, avec des dés pipés, etc. Enfin bon, on peut trouver toutes sortes de choses.
C'est là où les positions de Pascal et de Kant, c'est intéressant de poser Kant, il dit, je pose comme hypothèse que Dieu existe. Ça me permet de faire le lien, c'est absolument passionnant. Mm. Et j'ai conscience que finalement, je me perçois, je suis limité à ma perception. Mm.
La marque.
C'est
la marque ou Lavoisier qui dira l'inverse ?
C'est la Lavoisier, je crois. Quand il est interrogé par Napoléon,
ouais, il dit et Dieu, une hypothèse dont j'ai pas besoin. Ouais. Voilà. Et donc ensuite vous avez la partie plus matérialiste avec le fameux Richard Dawkins qui refuse toute forme de religion, considérant que finalement la religion n'a même plus sa raison d'être. Indépendamment de la question de l'origine de l'univers, D'ailleurs, il n'est pas dit que l'univers est une origine. Vous savez que le Big Bang, c'est une théorie parmi d'autres. Hein. Il n'y a pas une théorie unifiée en physique. Il y a des théories. Hein ? Oui, oui, ben, les religieux ont bien fourni les sciences.
Le sujet sur le boson de X, c'est absolument... Enfin, il y a un contexte qui s'appelle la fièvre des particules. C'est le grand public.
Oui.
Ils auraient pu le faire.
Très bien.
C'est super. Et s'opposent deux visions de l'univers en fonction du poids, finalement, que pèsera le quark. C'est-à-dire que soit c'est un multi-univers, soit c'est la théorie du chaos, c'est pas nous seulement. C'est l'esprit humain, finalement, s'oppose entre la théorie et la pratique. Donc, le cerveau, ils arrivent à essayer de confronter les deux. En fait, ils trouvent la valeur médiane entre les deux.
Parce que la théorie des cordes invalide le fait qu'il y a un point zéro.
Oui. On ne sait pas si ça s'expande, mais on
Il faudrait que ce soit plutôt le phénomène d'accordéon, sa expansion, compression, enfin bon. Voilà. Je vous ai laissé sur la feuille quelques extraits intéressants de l'encyclique de Jean-Paul II, Foi et raison. Je vous ai souligné dans chaque paragraphe l'intérêt du paragraphe. Hein, c'est comme ça que vous pouvez orienter un peu votre lecture. Je trouve que c'est intéressant parce que ça montre aussi une capacité de dialogue qu'on sous-estime parfois du côté du Vatican. Et en tous les cas, c'est le texte qui fait référence pour les évêques catholiques. Et donc, si un jour vous êtes amené à discuter avec des catholiques sur la question de la foi, de la science, etc., ben, en fait, c'est ce texte-là qui fait référence. Et donc, vous aurez des éléments pour à la fois comprendre ce qu'ils disent et puis peut-être constater qu'ils sont eux-mêmes en désaccord avec l'encyclique qui, pourtant, est une sorte de minimum en deçà duquel on ne descend plus dans l'Église catholique. Voilà. Voilà pour ce parcours trop rapide, bien évidemment.
J'ai juste une petite question sur ce qui s'est passé. Il y a Claude Héroli qui a sorti un texte très récemment. On est dans un contexte un peu particulier, c'est vrai que c'était par rapport au contexte, mais qui met très en avant le fait que raison, foi, bon, peut-être qu'il faut insister beaucoup sur ce que c'est là parce qu'il y a des gens qui attaquent dans l'autre sens, mais ça m'a un petit peu gêné, même si je suis d'accord avec le texte, ça m'a gêné par rapport au fait qu'on fait fi totalement, et puis encore ce soir, enfin c'est pas une critique hein, du tout, mais par exemple de Kierkegaard, et qui a tellement travaillé, qui est sur la base de tout l'existentialisme chrétien, et d'une grosse partie de la pensée moderne, et qui est par de suspension de l'éthique, et donc de suspension de la raison, à partir du moment où on est dans la religion.
Ah non, c'est
ça
pas
m'a un peu gêné qu'on l'insiste autant que le protestantisme parle autant de. Que la foi doit être associée à la raison à la foi, la foi à la raison à la foi, parce qu'on a quand même Martin Luther d'abord, bon, qui a un petit rôle dans le protestantisme quand même, et puis Søren Kierkegaard qui a joué un grand rôle dans la pensée et qui a quand même combattu, on dirait Hegel, et sa volonté de tout rationaliser absolument et d'être maître du monde entier de manière à interpréter tout, et qui est revenu quand même, en remettant en avant, qu'il y a quand même une partie de la foi qui ne s'explique pas, qui n'est pas de la raison, qui est au-delà de la raison. Mais qui gêne aujourd'hui, parce qu'effectivement, dans cette situation où on a des attentats et des extrémistes, on se retrouve dans une situation où comment mettre une barrière à ce genre de débordement sans invoquer ce que fait Claude Héroli, la raison.
Mais la suspension téléologique de l'éthique par Kierkegaard n'est pas une mise entre parenthèses de la raison.
Elle est
Non.
Il dit que l'éthique est la fuite de la raison et que c'est une suspension quand même momentanée.
Non, ce n'est pas une suspension de la raison, c'est une suspension de l'éthique pour atteindre le stade religieux.
Oui.
Qui est donc un dépassement et pas une neutralisation.
Ah, c'est pas une négation de la religion.
Ouais, c'est ça.
D'accord.
C'est une transcendance de la raison. C'est qu'il y a un au-delà de. C'est-à-dire que tout ne se ramène pas à ma raison. C'est-à-dire qu'il y a une raison supérieure.
Oui, c'est un au-delà.
Ouais. Mais du coup, ça ne me dispense pas de penser.
Parce qu'il y a des attaques dans le sens de passer trop sur le côté. C'est par rapport au contexte, je ne sais pas.
Non, mais là, c'est ce que j'ai sur le Corinthiens 12, sur l'expérience, je veux dire, de foi de Paul. Ça ne disqualifie pas la raison. Ça va au-delà et la raison est obligée d'utiliser des images pour en parler. Mais c'est un dépassement, ce n'est pas une contradiction. Et c'est vrai que nous, on est plutôt dans cette idée que voilà, la foi peut être au-delà de la raison, mais elle ne doit pas être absurde. Et c'est vrai qu'ici, on n'aime pas tellement, par exemple, qu'on dise voilà, c'est le grand mystère de machin. En général, quand on commence à dire c'est le grand mystère, deux, trois points de suspension, ça veut dire écoutez, je suis d'accord que ma théologie, ma théorie, mon éthique est complètement absurde.
Mais j'ai rien d'autre à vous proposer.
J'ai rien d'autre à vous proposer, voilà. Et donc vous êtes prié pour être de bons croyants, d'arrêter de réfléchir sur ce point, s'il vous plaît, exactement. Sinon vous prenez la porte.
C'est vrai.
C'est vrai que chez nous, on n'accepte
c'est un danger,
pas
c'est un
trop cela.
D'aller sur ce terrain-là, quoi.